Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. On est dans un livre de chants. On étudie un chant ce matin. Et on aborde donc la troisième partie de notre méditation du psaume 139. On a médité sur les 12 premiers versets, je vous encourage à les lire, on ne va pas relire tout ce matin. Et nous avions partagé sur la façon dont David avait placé l'omniscience de Dieu dans la première partie de son psaume, puis l'omniprésence dans la seconde partie du psaume. Aujourd'hui, nous abordons donc les 6 versets suivants, en commençant au verset 13 où il est écrit « C'est toi qui as créé ma conscience ». C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. C'est dans la traduction Parole de vie, pour ceux que ça intéresse. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé que tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner, et pourtant, aucun d'eux n'avait encore commencé. Ô Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles, elles sont si nombreuses. Comment les compter ? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable, même si je les comptais toutes. Je n'arriverai pas à te comprendre. David va poursuivre son psaume en proclamant maintenant la souveraineté et l'omniscience de Dieu en rapport de sa vie. Et il continue sa louange en prenant de plus en plus conscience de la grandeur de Dieu. À ce propos, un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tozer, va dire « La souveraineté de Dieu est l'attribut en vertu duquel il règne sur sa création entière. » Et pour être souverain, Dieu doit être omniscient, avoir la connaissance de tout, tout puissant et absolument libre. Libre de faire tout ce qu'il a envie d'accomplir, en tout lieu et en tout moment, pour mener à bien son objectif éternel, dans le moindre petit détail et sans interférence. Un pasteur que vous connaissez certainement, c'est Charles Spurgeon, disait de son côté, « L'homme n'aime pas voir Dieu régner ». Pourquoi ? Sans doute parce qu'il lui faut reconnaître ainsi que ce n'est pas lui qui règne. Et on n'aime pas que l'on règne sur nous. On veut être les rois de nos propres royaumes, de nos propres vies, les rois et les reines. Et c'est donc en considérant la souveraineté de Dieu, son omniprésence et son omnipotence que David entonnait ses louanges. Et maintenant qu'il se confronte à cet autre attribut de Dieu qui est son omniscience, il ne cesse de louer le Dieu souverain. Et il entre dans l'intimité du Créateur. David commence ainsi cette section du psaume 139 avec une acclamation. C'est toi ! C'est toi ! Il y a dans le cœur du roi une profonde reconnaissance, tandis qu'il s'adresse à nouveau directement à Dieu, son Créateur, au travers de son chant. Plus que l'omnipotence et que l'omniprésence du Dieu qui peut tout, qui est présent partout, cette partie du psaume développe l'idée que Dieu, notre Créateur, a un projet pour chacun de nous. En effet, la description même de notre conception par David nous permet de comprendre que Dieu ne crée pas les humains en suivant un processus industriel, en se contentant uniquement de reproduire le même modèle à l'infini, où tous les hommes seraient les mêmes, comme on fabrique, vous savez, les saucisses Herta, là, toutes les mêmes, vous en prenez deux, vous les regardez, vous les différenciez pas. Dieu n'a pas créé l'homme de cette manière-là, il ne suit pas un processus industriel, mais en créant des hommes et des femmes qui sont différents, ô combien différents, semblables et pourtant différents. Non, Dieu nous a créés dans notre individualité. Nous ne sommes pas indifférenciables. Chacun de nous est l'objet de son attention, de son amour et de sa délicatesse. Ainsi, nous devons réaliser que si Dieu est le Dieu de la multitude, il est aussi celui de notre individualité. Lire la Bible, c'est se rendre compte que Dieu tient compte de l'ensemble, mais aussi de la personne, de notre individualité. Il nous appelle à rentrer dans une relation communautaire, mais aussi à vivre une relation individuelle avec lui, de proximité, d'intimité. Et dans la bouche de David vont jaillir les mots créer, former, tisser, ou encore broder, cacher, pétrir, en fonction des traductions. Tous ces mots sont utilisés pour illustrer quel type de travail. Créer, former, tisser, broder, pétrir. Un travail artisanal. Celui d'une conception divine qui rejette le fait que nous soyons des êtres formés par le hasard. Quand on met nos enfants à l'école de la République, on leur apprend que nous sommes le produit de l'évolution, le pur produit d'un hasard. Le hasard fait bien les choses. Comment le hasard a-t-il pu créer les papillons ? Comment le hasard a-t-il pu créer les baleines ? Moitié mammifère et être marin ? Comment le hasard a-t-il pu créer le développement de l'enfant dans le sein de la mère ? Comment a-t-il pu créer la rétine ? Quand on fait des appareils photo, on essaye d'imiter la rétine de l'œil quand on crée un appareil photo. Mais jamais on atteint cette perfection du champ, de la profondeur, du relief, de la diversité des couleurs captées par l'œil humain. Merveille de la création, merveille de la créature. Je ne suis pas le produit du hasard. Cette synergie au sein de la nature est-elle le produit du hasard ? Est-ce que c'est le hasard qui a fait qu'il y a eu des insectes butineurs qui sont venus pour féconder les fleurs ? S'ils n'avaient pas été là, ces insectes, ces fleurs n'auraient jamais pu continuer à être. Trop de hasard nous permet, avec énormément de scientifiques aujourd'hui, de dire « Ben oui, il y a forcément un créateur au-dessus de la création ». Quelle grâce de considérer et de proclamer avec David que le Dieu omnipotent et omniprésent est aussi notre créateur. Et rejoindre Dieu dans son intimité, c'est retrouver le but de notre individualité au cœur de la multitude. Oui, il y a une multitude et je veux rejoindre Dieu dans son intimité pour donner un sens à ma vie au milieu de ce monde. Je ne suis pas à part du monde. Je suis dans le monde. La Bible du Semeur, au verset 13, traduit « Tu m'as fait ce que je suis ». Il y a dans cette proclamation non seulement la reconnaissance du Créateur comme étant à la genèse de nos vies, mais également la nécessaire acceptation de ce que Dieu a fait. « Tu m'as fait ce que je suis ». Un chanteur disait « Oh maman, pourquoi tu m'as fait ? Je suis pas beau. »« Allô maman, bobo. » David, lui, quelques milliers d'années avant, a fait un chant. « Oh, merci Seigneur, tu m'as fait, qu'est-ce que je suis beau. Oh Seigneur, merci. Tu m'as fait ce que je suis. » Et dans cette proclamation de David, il y a non seulement la reconnaissance du Créateur comme étant à la genèse de sa vie, mais également « Je m'accepte tel que Dieu m'a fait. Tu m'as fait ce que je suis. Je peux dire que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Et nous devrions pouvoir ajouter à l'exemple de Paul dans 1 Corinthiens 15, 10 « Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Je reconnais que Dieu m'a fait, que c'est une grâce, mais je n'ai pas juste pris ça à mon propre compte, pour profiter de cette vie qui m'est accordée, mais cette grâce de Dieu en moi n'a pas été vaine. Et j'ai fait de cette vie qu'il m'a offerte un don pour les autres de sa part. Rien de ce que nous sommes n'a échappé à la volonté de Dieu. Tu entends ce que je dis ce matin ? Rien de ce que tu es n'a échappé à la volonté de Dieu. Et bien plus encore, Dieu est non seulement le maître du début de notre histoire, mais de toute notre vie ainsi que de sa finalité ici-bas. Pour David, il n'y a aucun doute que Dieu couvre toute sa vie quand au verset 16, il proclame « J'étais à peine formé, tu me voyais déjà ». Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner, et pourtant aucun d'eux n'avait encore commencé. Et à la lecture de ce passage, chacun de nous peut dire qu'il ne mourra pas un jour plus tôt ou un jour plus tard que le jour que Dieu a fixé. Je ne souhaite pas connaître ce jour avant qu'il arrive. Ce sera angoissant. Et pourtant Dieu le connaît, lui. Je ne sais pas s'il a des compteurs devant ses yeux décomptant. 9, 8, 7, 6. Puis il est là, il dit, ouais, il va bientôt arriver. 5, 4, 3, 2. Le dernier souffle. Il est là. Entre dans la joie de ton maître. Tous nos jours sont comptés. Tes jours sont comptés. En vieillissant, on n'ajoute pas des jours à notre vie. Le compteur ne part pas de zéro pour aller vers du plus. Les jours sont déterminés. C'est un compteur décomptant. C'est la volonté de s'approcher d'un Dieu tout-puissant. La grâce d'aller à sa rencontre. La grande rencontre de notre vie. À la lecture de ce passage, chacun de nous peut dire qu'il ne mourra pas un jour plus tôt que le jour qui a été fixé par Dieu. Il découle d'une telle connaissance des limites fixées à nos vies que toute inquiétude concernant cette vie est en réalité inutile. En effet, Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 6, 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous pourrez vous inquiéter, ça ne va pas augmenter votre compteur. Alors à quoi bon s'inquiéter? Tu mourras au temps voulu de Dieu, au moment où il te convoquera dans sa présence. Et vous savez, nous sommes, je l'espère pour vous, tous convoqués un jour d'entrer dans sa présence. C'est donc avec une paix profonde que nous sommes invités à louer Dieu, notre Créateur, car il tient nos vies entre ses mains. Deuxièmement, l'intimité de Dieu nous ramène à notre véritable condition de créature. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Il est celui qui a formé mes reins, dira David. Les reins étaient considérés comme le siège de la force, qui permet à l'homme de se tenir debout. Mais d'un point de vue moral, il représente le siège d'instincts irréfléchis et inconscients. Vos reins ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas de matière grise. Tandis que le cœur, c'est pas la pompe, hein, mais le siège de vos sentiments, de vos émotions, était considéré comme l'organe de l'activité consciente et libre. Et quand vous lisez votre Bible, les termes « cœur » et « reins » réunis, ils désignent l'ensemble de la vie intime de l'homme, celle qui est consciente et celle qui est inconsciente. Mais dans ce psaume, David parle essentiellement des reins, de cette partie inconsciente. Il parle donc d'une intimité qui est de nature obscure et impénétrable pour lui. Cependant, même ce que sa conscience ne peut réaliser, ce qui échappe à ses perceptions n'échappe pas au regard de Dieu. Comprenez-vous dans quelle mesure d'abandon David entonne son chant? Est-ce ce type d'abandon qui illustre bien votre relation à Dieu et la confiance qui s'est établie entre vous et lui? David se confronte maintenant à l'omniscience de Dieu, encore un magnifique et puissant attribut de notre Dieu. Non seulement Dieu voit tout, puisqu'il est présent partout, mais il est aussi celui qui sait tout, celui qui a fait l'homme, en connaît tous les secrets. Conscient d'être créé par le Dieu infiniment merveilleux, David reconnaît au verset 14 qu'il est une créature merveilleuse, puisqu'il a été créé par un Dieu merveilleux. Verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Que pensez-vous ordinairement des créatures que nous sommes ? Quel jugement de valeur portez-vous sur la personne que vous êtes ? Vous dites, qu'est-ce que je suis merveilleuse ? Dans votre état actuel, avec vos fragilités et tous vos dysfonctionnements. Pourtant, Dieu a regardé sa création. Et il a affirmé que tout était bon. Mais quand on la regarde aujourd'hui, on n'arrive pas à dire ça. La création de l'homme, mâle et femelle, à son image, a été le couronnement de son œuvre créatrice, selon Genèse, chapitre 1er, verset 27. Cependant, nous avons bien conscience que depuis l'acte divin et créateur de Genèse 1, il y a de grandes différences entre l'homme Adam du Jardin d'Éden et les hommes d'aujourd'hui. Entre Adam et ton mari, ma sœur. Il y a des différences. Mais il y en a aussi entre Ève et ton épouse, mon frère, n'est-ce pas ? Nous sommes bien conscients de nos manques, de nos excès, de nos distorsions, de toutes nos erreurs. Et tout ceci est communément l'objet de quoi ? Des critiques. On critique pas ce qui est bien, on critique ce qui ne fonctionne pas. Les distorsions, les erreurs, les manquements. Et ça, on se l'adresse les uns aux autres. Nous confronter aux autres nous pousse souvent à la critique et à l'orgueil, mais nous confronter à Dieu dans son intimité est le meilleur moyen de nous voir tels que nous sommes et de nous rendre humbles. Mieux vaut une heure dans ses parvis que mille autres ailleurs. Mieux vaut être à genoux dans la présence de Dieu qu'assis sur le banc des moqueurs. Mais le psaume 139 nous rappelle que nous sommes une créature merveilleuse. Merveilleuse ! Merveilleuse ! Est-ce la définition que vous avez de vous-même et des autres ? Oh, je lui dis à ma femme, tu es merveilleuse le jour de son anniversaire. Ou quand elle me fait mon repas préféré. Ou qu'elle a pensé à mon anniversaire. C'est déjà bien, ça fait 3-4 jours l'année. Je blague, hein ? Ce psaume serait-il totalement désuet ? Regarde les êtres humains, je ne peux plus dire qu'ils sont merveilleux. Quelle créature abominable. Tout tordu, pleine de vices. Ah, les êtres humains. Oh, le meilleur, il est comme une ronce. Devrions-nous rayer ce psaume de nos Bibles, éviter de chanter ces versets qui proclament quelle merveilleuse créature nous sommes ? Faisons-le. C'est plus vrai. Pasteur, c'est pas vrai. Comment pouvons-nous avoir un si grand potentiel tout en étant faillibles de si nombreuses manières ? Et il suffit de parcourir notre Bible pour comprendre comment il est encore possible de proclamer une telle chose aujourd'hui. Lorsqu'on considère Moïse, il grandissait dans la maison du Pharaon, Moïse. Il jouissait de nombreux avantages. Puis il a tué un Égyptien, il est parti en exil. Et à cause de ça, il ne semblait plus être le candidat idéal pour mener les Israélites hors d'Égypte. Il s'est manqué un peu là, non ? Dieu lui a pas dit, va tuer l'Égyptien, quoi. Il a cru bon de le faire, à sa sauce, à son idée. Pourtant, Dieu ne s'est pas arrêté aux actions de Moïse, mais il a vu la personne qu'il pouvait devenir. De même, avant sa conversion, l'apôtre Paul s'opposait avec véhémence à ceux qui croyaient en Jésus. Mais par la grâce de Dieu, il est devenu un grand évangéliste, enseignant et l'auteur de plusieurs livres du Nouveau Testament. De son côté, Pierre, l'apôtre, était un simple pécheur qui a nié 3 fois connaître Jésus. Cependant, le Seigneur l'a quand même choisi pour devenir le dirigeant de l'église de Jérusalem. Ou alors le Seigneur est le pire directeur des ressources humaines. Ou alors il a la capacité de nous changer. Notre Père Céleste voit au-delà de nos faiblesses humaines le potentiel que nous avons, pas en nous, mais en Christ qui est en nous. Puisque nous avons été créés à son image et que son esprit habite en nous, nous possédons une capacité de transformation spirituelle et de service inimaginable. Si les hommes voient nos actions, Dieu voit nos motivations. Les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde à notre appartenance. Les hommes observent les mouvements du corps, mais Dieu s'attache aux mouvements du cœur. L'objectivité de Dieu, qui est le fruit de son omniscience, sera toujours préférable à l'analyse imparfaite et tronquée des hommes. Si j'avais dû être à la place de Dieu pour choisir un pasteur, je ne me serais pas choisi. Pourquoi ? Parce que je me connais bien. J'aurais choisi quelqu'un de beaucoup mieux. Et s'il plaît à Dieu de se servir des choses les plus faibles et les plus viles du monde pour en confondre les sages, alors je peux dire, ok, il ne s'est pas trompé. Mais il y a du boulot. Il part de loin, de très loin. Et ô combien la grâce de Dieu n'a pas été vaine, je le crois. Je prie pour que ça continue. Comprenons que Dieu n'est jamais désillusionné en ce qui nous concerne. Simplement parce qu'il ne s'est jamais fait d'illusion sur nous. Toi, tu peux t'illusionner sur telle ou telle personne, sur tel ou tel pasteur. Je croyais qu'il était comme ça, mais en réalité, je me suis fait une illusion de lui ou d'elle. Parfois, ça met des années avant de se rendre compte de certaines choses. Mais Dieu n'est pas illusionné par toi. Il ne se fait pas des idées sur toi où d'un seul coup, il se fait « Ah ouais, il est comme ça. Ah ouais, j'aurais jamais cru qu'elle était capable de faire ça. » Dieu sait, lui, qui tu es. Il ne s'est pas fait d'illusion sur toi. Un Dieu qui s'illusionnerait témoignerait ainsi de sa capacité à se tromper. Et cela lui arracherait son attribut d'omniscience. Cela est impossible, parce que Dieu est omniscient, il ne se trompe pas, il sait qui tu es. Même toi, tu peux t'illusionner sur toi-même, c'est pour dire. Mais pas lui. Il n'est pas étonné quand tu chutes. Il n'est pas étonné quand ton cœur se déverse devant lui. Aussi, plutôt que d'effacer le verset 14 du psaume 119, nous devrions plutôt chercher à devenir la personne que Dieu désire que nous soyons. Je reconnais que j'ai du mal à dire que je suis une créature merveilleuse. Parce que tout part à volo, tout dysfonctionne, il y a plein de choses que j'aime pas. Mais Seigneur, aide-moi à devenir celui que tu veux que je sois, je t'en supplie. Aide-moi. Même quand la souffrance nous taraude, quand la vieillesse nous diminue ou que le handicap nous emprisonne, nous pouvons chanter, je te loue, de ce que je suis une créature si merveilleuse. L'instant d'une louange, cessons de porter un regard critique sur nos vies, sur l'œuvre créatrice, et regardons combien depuis la croix la puissance de régénération agit au rétablissement des créatures déchues que nous étions. L'instant d'une louange, arrêtons les critiques. Arrêtons de nous plaindre. Remercions. Les œuvres de Dieu sont admirables et je veux que mon âme les reconnaisse. L'intimité, c'est du grand artisan de nos vies, ou dans l'intimité du grand artisan de nos vies, nous confrontons nos limites. David, de poursuivre au verset 15 de la Bible, se meurt. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre, qui évoque les verbes tisser ou encore broder et façonner ou encore former. Mon corps pourrait se traduire dans l'hébreu par os ou ossature. Mes os n'étaient pas cachés à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé. Il fait allusion à la structure complète de l'homme adulte. Le corps adulte avait déjà été planifié, modelé, programmé quand il était encore trop petit pour être visible et qu'il se trouvait dans un lieu secret. Et l'image poétique est des plus parlantes, puisque David illustre le développement humain en employant le terme de broderie dans le sens littéral de tisser. C'est comme si une forme était cousue sur un magnifique patron, fort complexe et préparé à l'avance. C'est une description exacte du remarquable procédé de développement de l'embryon comme le fait apparaître la biologie moléculaire. Le modèle d'une molécule d'ADN est une structure complète faite de deux brins enroulés en hélice qui sert pour construire cellule par cellule l'ensemble du corps adulte. Et c'est dans les profondeurs de la terre que David déclare que Dieu tisse l'homme. Mais au verset 13, ne disait-il pas que Dieu l'avait tissé dans le ventre de sa mère ? Évidemment, le sein de la terre comme symbole qui nous renvoie à la création adamique, le ventre maternel et le ventre maternel évoquent des notions de mystère, de secret, de séparation d'avec le monde visible. Il se passe quelque chose, un mouvement se fait alors qu'on ne voit rien. Vous croyez que des choses peuvent se faire alors que vous ne les voyez pas ? Que des choses peuvent bouger alors que vous ne voyez rien ? Aujourd'hui, on a des appareils même pour aller mesurer que ça bouge alors qu'on ne voit pas. Alors vous avez la foi parce que vous croyez que des choses bougent alors que vous ne voyez rien bouger en réalité. C'est précisément là que le Dieu qui voit tout, le Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent tisse sa créature. Il lui donne vie et la fait croître. Et il prend le soin de mettre en elle une personnalité et de déterminer également la durée de sa vie. Il la crée unique, mais aussi compatible pour vivre avec ses semblables. Il lui donne des qualités. C'est génial. Mais il prend soin d'en omettre d'autres. C'est vrai, Dieu aurait pu nous donner à chacun toutes les qualités nécessaires pour notre vie. Alors il nous a donné certaines qualités, et puis il en a omis d'autres. Il a dit non, celle-là, je ne vais pas lui donner. Savez-vous pourquoi Dieu a dit, je ne vais pas te donner cette qualité-là. Juste pour t'obliger à vivre en synergie avec les autres créatures de ce monde. Cette qualité-là, je vais la mettre dans l'homme. Puis cette qualité-là, je vais la mettre dans la femme. Et c'est s'ils œuvrent ensemble qu'ils pourront connaître la complétude. Si chacun vit chez soi, il ne sera jamais complet. Il a mis des qualités dans ton frère, dans ta sœur, dans ton pasteur, dans tes enfants. Ces qualités que toi tu n'as pas, il faudra que tu ailles à son contact pour venir te compléter. Là, dès le ventre de notre mère, alors que nous étions en germe, quand on fait l'échographie, on nous dit « Vous avez vu le petit haricot là ? C'est votre enfant. » Un haricot, mais c'est pas un haricot mon enfant. Eh bien là, alors que nous étions en germe, Dieu n'ignorait rien de toute notre existence qui était devant lui dès le commencement. Il sait déjà. C'est grand comme ça, là. On en a, il n'y a pas de yeux, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de bras, il n'y a rien, c'est tout bizarre. Et lui, il sait déjà toute la vie. Toute ta vie, tes moindres faits, tes moindres gestes, tout. Et pourtant, cette prescience et cette omniscience ne va pas anéantir notre liberté d'homme, ni sa responsabilité non plus, auquel le psalmiste va faire allusion dans les versets 19 à 24 qui arrivent après. C'est alors que David, pendant qu'il contemple son Dieu dans son ouvrage, déclare à juste titre au verset 17 et 18 dans la version seconde « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable, je m'éveille. » Et je suis encore avec toi. Et l'attitude de David illustre parfaitement l'état de son cœur. Ainsi, l'homme, selon le cœur de Dieu, adore et rend grâce. D'ailleurs, que peut-il faire de plus ? Il observe sans parvenir à comprendre. Ainsi, il reconnaît ses limites. Je vois, mais je ne comprends pas. C'est impénétrable. Pour lui, chaque jour auquel il s'éveille va accentuer sa louange. Est-ce que pour toi, chaque jour accentue ta louange ? Aurait-il tendance à la diminuer ? J'en ai marre. C'est toujours pareil. Il n'y a rien qui change. David, lui, chaque jour il s'éveille. Et il loue encore plus, il adore encore plus. Celui qui donnait des injonctions à son âme découragée au psaume 43,5 disait « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Il discute avec son âme. « T'as déjà discuté avec ton âme ?» Moi, des fois, discute beaucoup avec moi, un peu moins avec elle. Mais David, il n'est pas dans une discussion à la laisser faire, laisser dire. Il dit « Écoute, mon âme, pourquoi gémis-tu, mon âme ? Et gémis-tu au-dedans de moi ? Écoute voir, espère en Dieu. Car je le louerai encore. Ça te plaît pas, mon âme ? Mais je le louerai encore. Alors espère en Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. » Et celui qui donnait des injonctions à son âme découragée est un témoin puissant de ce qu'un chrétien ou une chrétienne doivent être. Pour David, la louange et l'adoration n'étaient pas des options. Par elles, il goûtait et même se délectait de l'intimité de son Dieu. Et il termine cette partie de son psaume en attestant que chaque jour nouveau recommence à dérouler devant lui de nouvelles pensées divines. Un jour en enfante un autre, et à chaque fois de nouvelles choses apparaissent à mes yeux. La richesse du jour passé vient s'agglomérer à mes souvenirs. Je suis plus riche aujourd'hui du jour d'avant. Et on comprend pourquoi la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Ainsi, à son réveil, il constate qu'il est encore avec Dieu. Vivre dans sa bonté, sous sa protection et sa direction, tous les jours de sa vie dans lesquels apparaît à ses yeux un plan divin, lui révèle les pensées miséricordieuses de Dieu envers lui. Et ces pensées sont si nombreuses qu'il n'arrive même pas à les compter, plus nombreuses que les grains de sable. Vous savez, ces mêmes grains de sable à qui Dieu avait dit à Abraham, voilà, ta postérité sera plus nombreuse que les grains de sable. Regarde, une postérité spirituelle, les enfants d'Abraham, mes enfants, mes élus, mon peuple que je me suis choisi. Alors le matin, dès le matin, j'ouvre mes yeux et je contemple l'étendue de sable d'un peuple que Dieu a racheté par son sang. Ses pensées sont si nombreuses que je ne peux les compter. Quand je m'éveille, chaque jour nouveau recommence à dérouler devant lui de nouvelles pensées divines. À son réveil, il constate qu'il est encore avec Dieu, vivant dans sa bonté et sous sa protection, sous sa direction. Au psaume 73, 23 et 24, il est dit « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Voilà mon itinéraire. Ma vie, c'est d'être toujours avec toi. C'est d'être saisi par la main droite, c'est d'être conduit par le conseil de Dieu afin de pouvoir être un jour avec lui dans la gloire. David est véritablement un merveilleux conducteur de louanges. Merveilleux conducteur de louanges. Et ce David, ce merveilleux conducteur de louanges, nous entraîne à sa suite et nous invite à nous plonger dans l'intimité du grand Dieu afin que nos cœurs soient comblés et rassasiés. Parce que c'est ça le propre d'un conducteur de louange. C'est de dire, venez avec moi dans l'intimité de Dieu. Il marche au devant d'un peuple en fête parce qu'il va à la rencontre de son Dieu. Pour conclure, l'intimité de Dieu, ce n'est pas comprendre, mais c'est accepter. Parce que David se retrouve dans l'intimité de Dieu, mais il dit, je comprends rien. Nous, on pourrait se dire, mais je veux être dans l'intimité de Dieu pour arriver à comprendre. Pourquoi, Seigneur ? Explique-moi. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui sait le chemin pour entrer dans l'intimité de Dieu, il le psalmodie, il prend sa harpe, il chante, il pleure, son cœur est ouvert, il exprime ses sentiments, il entre dans la présence de Dieu. Et alors qu'il est dans la présence de Dieu, on peut croire que ça y est, la révélation est là, il dit, je comprends rien. Tes pensées, impénétrables, Seigneur, je comprends rien, mais j'accepte. J'accepte de ne pas comprendre. Connaissez-vous Johnny Erickson Tada? Cette femme que vous voyez ici n'avait que 17 ans quand toute sa vie a basculé. Elle était jeune chrétienne, elle s'est rendue à la plage avec sa sœur. Elle a fait juste un plongeon qui l'a rendue tétraplégique. Ça fait désormais 50 ans qu'elle vit en fauteuil roulant. Elle a un ministère international, elle est devenue conférencière, auteure à succès et animatrice de radio. Dans une de ses citations, elle déclare « La vraie satisfaction ne vient pas de la compréhension des motifs de Dieu. » Pourquoi Dieu, ça m'est arrivé ça? Est-ce que je serais satisfaite si je comprenais pourquoi? Elle dit « La vraie satisfaction ne vient pas de la compréhension des motifs de Dieu, mais de la compréhension de son caractère, de ses attributs. Qui est ce Dieu? De la confiance en ses promesses. De l'appui et du repos en lui comme souverain qui sait ce qu'il fait et fait bien toutes choses. » Il sait ce qu'il fait et fait bien toutes choses. Il sait ce qu'il fait et fait bien toutes choses. T'as pas un problème là? Qu'est-ce qu'elle a compris que tu n'as peut-être pas compris ce matin? Cette femme tétraplégique a de quoi se révolter. Elle pourrait crier contre Dieu comme beaucoup le font. Nous comprendrions qu'elle désespère de la vie. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Tout le contraire. Comme David, elle ne cherche pas à comprendre ne pas comprendre Dieu dans ce qu'il fait, mais plutôt dans ce qu'il est. Elle espère en ses promesses, car c'est dans le souverain tout-puissant qu'elle met sa foi. Aussi parce qu'elle sait qui il est, elle ne juge pas Dieu en rapport de son présent, de ses souffrances, du drame qui l'a frappé. Mais elle continue d'espérer en l'avenir eschatologique. Il va se passer quelque chose après cette vie qui est la mienne, car elle n'ignore pas que tout ce que Dieu fait est parfait. C'est pourquoi elle déclare aussi, Dieu est intéressé par une guérison plus profonde. Elle est en train de dire, quelque part, c'est pas tant que je me lève et que je marche qu'il l'intéresse. Dieu est intéressé par une guérison bien plus profonde. Il y a vraiment des choses plus importantes dans la vie que de marcher, dit-elle. Il y a des choses plus importantes dans la vie que l'utilisation de vos mains, parce qu'elle est aussi paralysée des mains. Et c'est d'avoir un cœur libre, libre, de l'emprise du péché, de l'orgueil et de l'égocentrisme. D'avoir un cœur libre. Je ne dis pas que j'ai réussi, dit-elle. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Une femme dans un fauteuil roulant dit « J'ai encore beaucoup de chemin à faire. » Mais j'avance ! Elle est handicapée et elle avance. Et nous, on est en pleine santé et on fait du surplace. Elle avance. Quel miracle! Et elle dit, et c'est un très bon sentiment, ça réjouit son cœur, parce qu'elle progresse. J'ai déjà témoigné de cela, mais un jour je me suis retrouvé, j'étais à l'époque pasteur chez les Tziganes, et j'étais sur le terrain des gens du voyage avec ma caravane, et je suis passé à côté d'une caravane, et là j'entendais pleurer. Une toute petite caravane, parce qu'il n'y avait qu'une personne dedans, une jeune fille, qui arrivait sur la trentaine à peu près, et elle pleurait. Alors, je me suis approché et j'ai dit, « Oh, qu'est-ce qui se passe, Corinna? Pourquoi tu pleures ?» Elle a vu le jeune pasteur qui était là, Parce qu'on ne pleure pas devant les autres, on pleure devant Dieu, mais pas devant les autres. On pleure sur soi, mais on évite de pleurer devant les autres. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Elle me dit, je pleure parce que je suis moche. Je pleure parce que je suis handicapée. Alors qu'elle était enfant, elle a eu la poliomyélite qui n'a pas été soignée. Cette maladie l'a entièrement déformée. Et elle pleurait, vous savez pourquoi? Parce que toutes les jeunes filles là autour d'elle, elles se mariaient, elles avaient des enfants. Puis elle pleurait. Et elle disait, mais mon Dieu, jamais un homme voudra de moi. Et elle pleurait. Et je lui dis, écoute Corinna, j'étais un jeune pasteur. Les jeunes pasteurs, ils ont les dents longues. Ils ont l'épée, ils veulent s'en servir à toute fin. Et néanmoins, je lui ai dit, je vais être un peu dur avec toi. Tu me permets? Elle a dit oui, oh la pauvre. Je lui ai dit, tu vois Corinna, tu devrais remercier Dieu au lieu de pleurer. Elle me dit, mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Regarde comme je suis. Comment remercier Dieu? Je lui dis, mais pendant que les autres sont en train de courir les magasins, en train d'essayer de plaire à leur conjoint, ou de plaire à je ne sais pas combien de futurs conjoints potentiels en attendant que le bon arrive, au lieu d'être préoccupés par leur beauté, par leurs apparences, par leurs 3 kilos de trop, toi, tu es en train de te tenir dans la présence de Dieu et tu déverses ton cœur et ton âme. Aujourd'hui, tu te dis, cette maladie qui m'a déformé me fait souffrir, alors qu'en le fait, elle te rapproche de Dieu bien plus que quiconque. Oui, ton cœur est en train d'être travaillé. Dieu est en train de s'occuper de toi. Alors, puisses-tu reconnaître sa grandeur dans ta vie? Et là, bizarrement, j'ai vu le sourire venir sur un visage qui avait encore 2 larmes qui coulaient. Ça fait bizarre. Parce qu'il y a 2 choses qui se croisent dont on n'a pas l'habitude. Des larmes avec un sourire. Quand Dieu donne du sens à nos vies, il change nos larmes en joie. Entrer dans l'intimité de Dieu, c'est de passer des larmes à la joie, c'est de connaître le vrai sens de la vie.